Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Alors la semaine dernière, nous croisions le fer avec une bande dessinée autour de Mademoiselle d'Aubigny, Julie Maupin. Une pour toutes, je me permets de mentionner donc à nouveau cet album que nous avions beaucoup aimé parce que virevoltant, parce que parlant d'une histoire quand même assez étonnante, hein, celle d'une jeune femme qui, au XVIIe et XVIIIe siècle, eh bien, allez, je vais employer le gros mot, s'émancipe en quelque sorte, en tout cas vit sa vie assurément. Il va être aussi question de croiser le fer aujourd'hui, mais d'une toute autre manière, avec un album, si j'en mentionne le titre, eh bien vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Ce titre, c'est Larzac, histoire d'une résistance paysanne, avec au scénario un historien qui a été le premier à parler de ce sujet, Pierre-Marie Terral, et qui ici réalise un scénario pour la bande dessinée. Je crois que c'est aussi la première fois que cela arrive, avec au dessin un certain Sébastien Verdier, que nous avions rencontré précédemment pour une biographie de George Orwell. Nous avions beaucoup aimé, et là encore, en ce qui concerne le Larzac, nous vous conseillons d'emblée vivement cette lecture, Thierry.
Oui, une magnifique parution consacrée à un personnage tout à fait fascinant. Je connaissais très mal l'existence, les péripéties qui ont semé son existence. J'essaie une approximation en parlant de précision photographique, de pseudo-réalisme, ce dessin...
Documentaire.
Documentaire, oui. Comme l'est dans un sens cette bande dessinée, convient parfaitement au sujet. Alors, vous avez dit Larzac. Est-ce que ça évoque beaucoup de choses? Oui, à une certaine tranche d'âge, oui. Même moi qui étais très jeune quand ces événements sont survenus, Larzac, c'est un symbole. Et je pense que l'historien qui est à la base de ce scénario veut prendre date, veut nous rappeler ce qui s'est passé et puis nous amener à réfléchir sur ce qui rapproche les événements du Larzac proprement dit des années 70 avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui rapproche et ce qui éloigne dans les situations.
C'est sûr que la condition des paysans en particulier, même si elle a considérablement évolué, même si la nature de la paysannerie aussi, dans une certaine mesure, a changé entre les années 60-70 et aujourd'hui, on est encore dans une actualité prégnante, quoi.
Le Larzac, alors, dans les grandes lignes, hein, on va dire au début des années 70, sur le plateau du Larzac, il y a des paysans, mais qui sont très isolés, qui vivent chichement. Et il y a déjà, sur le plateau du Larzac, un camp militaire. Les autorités projettent d'exproprier les paysans pour étendre ce camp militaire. Du coup, ces paysans qui étaient isolés, qui ne formaient pas un collectif, vont prendre conscience qu'on veut les spolier. Il faut dire qu'à l'époque, l'image de l'armée est assez négative, même très négative. Dans l'imaginaire, c'est souvent un instrument d'oppression. On n'est pas loin de la période de la guerre d'Algérie. L'armée est vue comme quelque chose de très, très négatif, de très autoritaire, de très...
Opaque aussi.
Oui, la grande muette, dans tous les sens du terme. Il y a un mouvement qui va naître, un collectif qui, aux paysans, vont s'adjoindre des gens qui sont clairement dans l'esprit post-mai 68. Donc, on est encore dans la période des utopies. On croit qu'on peut encore changer de société. C'est l'époque du programme commun entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. C'est les maoïstes. Alors oui, ça a existé, les maoïstes français. Tous ces gens-là, en fait, vont se rejoindre pour défendre la cause du Larzac. Et ça va créer un mouvement qui va prendre tout de suite de l'ampleur, qui va prendre une ampleur non seulement nationale, mais internationale. Et c'est là qu'on voit la différence avec notre époque, qui va rester non violent. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'affrontement. Si on croise le fer, c'est presque, j'allais dire, pacifique. C'est là qu'on mesure l'abîme entre cette époque où on essaie de changer les choses avec, j'allais dire, avec bonhomie. Vous utilisiez l'expression « bon enfant »
tout à fait.
Quand on préparait l'émission. Et aujourd'hui, où on est tout de suite dans l'affrontement, dans l'agglomération avec les éléments, les black blocs ou l'équivalent, la violence, le Larzac aujourd'hui, il y aura des morts. C'est confondant, c'est éclairant, c'est un album étonnant.
Oui, il y a un côté presque festif, on le voit d'ailleurs parce qu'il y a des photos d'archives.
Oui, il y a un côté Woodstock.
Oui, absolument, où on les voit faire la ronde, par exemple, tous ensemble, c'est assez étonnant. Je ne suis pas sûr que ce côté festif soit ce qui prédomine effectivement aujourd'hui.
Alors on retrouve José Bové, le jeune José Bové, qui avait déjà l'air vieux à l'époque. J'adore José Bové.
avec sa belle moustache, qui fait d'ailleurs la préface, et qui indique ce que vous précisiez au début tout à l'heure, Thierry, je crois, c'est le fait que voilà, on a entre les mains là, une bande dessinée, et pour Beauvais, c'est un nouvel outil qui permet de transmettre ce qui s'est passé à l'époque. Et je précise au passage que celui qui réalise le scénario de cette BD, c'est le premier historien qui a permis de faire connaître en détail ce qui s'est passé à l'époque, qui a été à l'origine du premier film autour du Larzac. Donc on est vraiment dans des premières là.
On est dans des premières, puis dans la volonté de faire date, de prendre date. Je ne savais pas que l'épopée, on ne peut pas dire ça autrement, l'épopée du Larzac avait duré aussi longtemps, donc une dizaine d'années. Hein. Ils ont tenu, ces paysans, ces militants, j'allais dire, l'armée aurait fini par gagner. Oui, c'est ça. S'il y avait eu l'élection présidentielle de 81 avec François Mitterrand devenant président de la République, ils ont tenu bon. C'est rigolo parce que dans toutes ces manifestations, il y a des péripéties qui nous ramènent à des événements très récents. Les convois de tracteurs pour monter sur Paris, les interdictions de la police. Il y a un épisode qui est à mourir de rire où effectivement les tracteurs sont entre guillemets confisqués. Donc comment on continue? On va trouver des tracteurs de remplacement. Et voilà. Ils trouvent des tracteurs de remplacement.
On leur en amène d'ailleurs pour qu'ils puissent poursuivre leur route, oui.
C'est un album qui est souvent très drôle. Je ne m'y attendais pas du tout. Les premières pages d'ailleurs sont très émouvantes parce qu'on voit ces paysans qui ont une vie dure, austère, qui d'un seul coup se retrouvent... le peu qu'ils avaient, ils vont le perdre. Mais très vite, ça prend un tour plein d'esprit et plein d'humour. Je me suis souvent beaucoup amusé à lire les slogans. Alors, il y a aussi quelque chose qui est à souligner dans cet album, c'est l'évolution des moyens d'information. Parce qu'à l'époque, la télévision, l'ORTF, la télévision radio, c'est au service de l'État. Hein. Comme disait le président Pompidou, c'est la voix de la France. Donc là-dessus, le Larzac, il y a les bons et les méchants, enfin les gentils et les méchants. La presse nationale, elle est plutôt opaque, enfin plutôt du côté du pouvoir. C'est une certaine presse qui va faire connaître et défendre les paysans du Larzac. C'est aussi la presse alternative, la presse satirique, le Canard enchaîné, surtout à Rakiri. Et on voit un hommage très émouvant à Cabu, qui a beaucoup dessiné sur le Larzac. C'est ça aussi qui différencie ce qui est évoqué, la période évoquée dans cet album Larzac et puis notre époque, c'est les moyens d'information et puis la difficulté d'informer à l'époque sur des événements qui n'étaient pas dans le sens souhaité par le gouvernement.
Alors moi, je vais me permettre de faire encore un petit peu de politique, même si je n'y connais pas grand-chose, Thierry. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit deux types de paysannerie. Une paysannerie qui est presque à échelle industrielle et puis une autre qui nous ramène à cet endroit, parce que le Larzac, parce que finalement, Millau, c'est tout proche. Oui. Il y a eu... d'autres mouvements initiés entre autres par José Beauvais, ou en tout cas auxquels il a participé, on pense au démontage d'un certain restaurant, d'un certain fast-food. C'est pas si loin que ça, mais c'était encore une autre époque. Et on se dit que des mouvements qui pourraient naître ou renaître ou se reproduire aujourd'hui viendraient sensiblement des mêmes endroits avec le même état d'esprit, comme si de ce côté-là de la France, il y avait cet esprit ancré véritablement dans la terre et pas dans l'industrie. Pour reprendre
oui,
le mot.
L'esprit de résistance, l'esprit du local, j'allais dire du locavore, de l'authentique, de la résistance au pouvoir central, les gros contre les petits, les puissants contre les faibles, le sens du collectif, oui, il y a des choses qui peuvent renaître encore, je l'espère. C'est la qualité principale, entre autres qualités de cet album. C'est à la fois un voyage dans le temps, un instrument de réflexion, et puis... un album très plaisant. C'est pas une histoire pesante, c'est très détaillé. C'est très bien écrit, c'est très clair. On reconnaît plein de gens qui ont eu un avenir un peu différent ou selon les mêmes convictions après. C'est une somme de travail et malgré tout, ça se lit comme un roman. C'est un album qui est passionnant.
Reconnaissons-le, Thierry, on aime beaucoup les histoires de David contre Goliath, surtout quand David gagne à la fin.
C'est le côté village gaulois, hein, Astérix, en résistant à l'Empire romain. C'est très français.
Tout à fait, c'est bel et bien ça. Alors, je l'ai mentionné, mais on peut peut-être un tout petit peu insister là-dessus. Il y a des photos qui viennent émailler le récit, des photos d'archives. Il y a un petit dossier aussi à la fin.
C'est très didactique. Avons-nous précisé que l'album est en noir et blanc ?
Non.
J'allais dire tant mieux parce que ça permet de dégager la qualité du coup de crayon de l'auteur. Ça donne un côté historique, image du temps passé. Du coup, ça crée aucun hiatus avec les reprises. Je parlais de Cabu, ils reprennent des planches de Harakiri. Les photos en noir et blanc, on passe vraiment d'un document à l'autre dans la même continuité graphique. C'est un seul et même voyage dans le temps, avec des moyens différents, mais qui s'enchaînent les uns les autres, qui s'emboîtent sans aucun hiatus. C'est très, très bien fait.
Et puis, il y a quelques slogans qui nous sont restés.
Oh, oui.
Moi, j'aime bien Gardarem Lou Larzac, c'est très connu, je ne suis pas sûr de prononcer correctement.
Non, peut-être qu'il faut rouler les R.
Peut-être, oui. Peut-être. J'ai pas pris l'habitude de ça. Sauvons les moutons, pas des canons. Je trouve que là encore, on est toujours dans l'actu, hein, même si peut-être on a changé un tout petit peu de
perspective. Ah, puis ici, il y a un passage qui est très drôle, c'est que les premiers hippies viennent pour aider les paysans, puis les paysans leur disent, on peut vous loger dans les tables. Les hippies répondent, ça tombe bien, on est déjà sur la paille.
Voilà, des petites choses comme ça qui viennent émailler le récit. Les hippies n'étaient pas forcément toujours très bien accueillis, en tout cas au départ,
parce qu'on n'aimait pas les chevelus.
Ça évolue au fur et à mesure. Larzac, histoire d'une résistance paysanne, par Pierre-Marie Terral, historien réputé pour ce sujet, au dessin Sébastien Verdier et une préface, vous l'avez saisi, de José Bové. Tout cela rend l'ensemble savoureux, intéressant sur tous les plans historiques, humoristiques aussi. Bon, vu le contexte et avec le recul qu'on a, ça c'est bien fini, donc tant mieux. Merci beaucoup Thierry de nous avoir présenté ce sujet. On a envie de le mettre peut-être un petit peu au goût du jour, si seulement les choses pouvaient bien se finir. Toujours comme ça, quand il s'agit de lutte juste, ça serait merveilleux. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture, toujours en bande dessinée.